bonjour, vous êtes bien sur Radio Prague dans cette émission préparée pour vous par la rédaction française pour ce programme du week-end. Comme tous les week-ends, donc on commence avec de la culture. La 13e foire au livre s'est tenue à Prague le week-end dernier. Anna Kubishta a rencontré le critique littéraire belge Didier Passamonique. Comme tous les 15 jours, nous écouterons ensuite la rubrique de Guillaume Narguet, le tchèque sur le bout de la langue. Et enfin, dans notre page littéraire, nous écouterons l'émission de Václav Richter, consacrée aujourd'hui à l'auteur algérien Boualem Sansal et à la traduction en tchèque de son roman Le village de l'allemand. Bonne écoute à toutes et à tous. Voilà, on commence avec la culture. La 13e foire du livre de Prague, Svět knihy, le monde du livre, s'est achevée dimanche dernier au parc des expositions à Prague. La Roumanie et la littérature de la région de la mer Noire étaient à l'honneur de cette année, de même que la bande dessinée. Parmi les invités, le critique belge Didier Passamonique, spécialiste de la représentation de la Shoah et de la judéité dans la bande dessinée, était au micro de Radio Prague avec Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Didier Passamonique, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez une palette d'activités immense dans le domaine de la BD. Vous êtes journaliste, vous avez été directeur de collection, éditeur. Oui, pardon, vous êtes toujours directeur de collection, vous êtes éditeur. Alors, comme dirait l'autre, est-ce que vous êtes tombé dans la BD quand vous étiez tout petit ?
Exactement. Quand j'avais 14 ou 15 ans, d'abord je suis né en Belgique, ce qui est un tropisme important dans le monde de la bande dessinée. Et mon frère et moi, on était des très gros collectionneurs de bande dessinée. Et à l'époque, c'était possible, on pouvait décrocher le téléphone et de dire « Monsieur Hergé » ou « Monsieur Franquin » ou « Monsieur Payot, l'auteur des Schtroumpfs, on voudrait bien vous rendre visite, est-ce que c'est possible ?» Et souvent, ils disaient oui. Et donc, très vite, on s'est fait repérer, pensez deux jumeaux, un de tes jumeaux, deux jeunes jumeaux passionnés de BD. Et donc, Hergé se rappelait pas souvent de mon nom, il nous appelait les frères Karamazov. Mais en tout cas, on était très connus dans le milieu, ce qui fait que j'ai été éditeur à l'âge de 18 ans. En même temps, j'ouvrais une librairie spécialisée en BD à Bruxelles. Et oui, donc on peut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Ça fait vraiment rêver. On a l'impression que le monde est à portée de main quand vous le racontez de cette façon.
Oui, j'ai la chance de faire d'une passion mon métier. Et donc oui, mais je peux le dire à tous vos auditeurs, oui, le monde est à portée de main, prenez-le.
Alors, vous êtes notamment spécialiste de la Shoah ou de la représentation de la Shoah dans la bande dessinée. Comment est-ce que vous êtes venu justement à ce thème ?
Écoutez, je suis d'origine juive, donc déjà c'est un thème qui m'est cher. Et puis surtout, ce qui m'intéresse moi dans la bande dessinée d'une manière générale, c'est comment se construisent les stéréotypes, les concepts, les personnages, les histoires. Et ce que j'ai remarqué dans la représentation de la Shoah, c'est que c'était un thème difficile à représenter, surtout que la bande dessinée a été longtemps dédiée à la jeunesse, était destinée aux enfants. Donc comment on tourne autour de la question ? Et ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que la première représentation historique de la Shoah dans la bande dessinée, c'est une BD qui est encore disponible aujourd'hui chez Gallimard, qui s'appelle « La bête est morte » de Edmond-François Calvo. Et pour affronter la réalité de la Shoah, il a transformé ses personnages en animaux.
C'est comme Art Spiegelman avec Maus, en fait.
Exactement. Et donc, en fait, Spiegelman s'en est souvenu pour Maus. Donc, un peu comme si on avait besoin du filtre de l'animalité pour représenter la réalité humaine. Donc, ce sont ce genre de questions-là qui m'ont interpellé et qui m'ont amené à essayer de voir comment ça avait été traité. Et puis, indépendamment de ça, comment l'image, par exemple, antisémite a pu se construire. Elle se construit de la même façon sur des stéréotypes. Les juifs ont des gros nez, ils sont avides au gain, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des images qui arrivent à un certain moment dans l'histoire, qui se cristallisent de façon graphique et qui deviennent...
Au 19e siècle, par exemple.
Et qui deviennent... C'est plus ancien que ça, c'est dès le Moyen-Âge. Mais... la distinction entre l'antijudaïsme chrétien et l'antisémitisme est très nette. C'est à partir du moment où le rejet des juifs est basé sur une espèce de scientisme qui vient du XVIIIe siècle, en fait, qui permet à...
On établit des critères physiques, par exemple, ah oui, pour désigner, entre guillemets, les juifs.
Voilà, c'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion, il devient une race. Et ça, c'est les lumières du XVIIIe siècle, c'est ce qui permet à Béni Lévy de dire que la Shoah, c'est les rencontres entre les lumières, avec un L majuscule, et la nuit. Et donc, c'est une très belle formule, voilà.
Pour élargir un peu, ici dans le cadre du Monde des Livres, vous participez à une table ronde consacrée à la bande dessinée historique, la bande dessinée biographique également. Justement, à l'heure actuelle, énormément de BD de ce type sortent en France, en Belgique. Alors on pourra en citer plein, hein, j'allais dire La Guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert, Svoboda pour le plus récent, puisque en plus il est ici au Monde des Livres, de Chris, hein, le scénariste, et de Jean-Denis Pendanx. Qu'est-ce qui a changé justement dans le regard du public sur la BD pour que justement ce type de BD ait ce succès-là?
Ce qui a changé, c'est la nature de la consommation de la BD elle-même. C'est-à-dire que Spiegelman est un peu responsable de ça. C'est que à cause de ces sujets, qui sont des sujets d'une grande gravité, mais aussi d'un intérêt général, c'est-à-dire d'un intérêt qui vont au-delà de la simple bande dessinée de distraction ou d'aventure, c'est-à-dire que Maus de Spiegelman est probablement un des meilleurs livres sur la Shoah qui a pu être écrit, au même titre que Si c'est un homme de Primo Levi. Et ce statut nouveau pour la bande dessinée a ouvert la voie à la présence de la librairie, de la bande dessinée dans la librairie générale. Et cette présence-là a permis, on peut dire, entre guillemets, de coloniser toute une série de thèmes. Et en fait, beaucoup d'auteurs, y compris des historiens de renom, considère que la BD est un bon vecteur pour raconter l'histoire parce qu'elle a deux avantages sur les essais historiques. Le premier, c'est qu'elle cristallise mieux, elle symbolise mieux les faits importants de l'histoire, ce qui fait qu'on retient mieux, on l'assimile mieux qu'un essai de 454 pages, par exemple. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on la reprend plus souvent en main. On va relire plus facilement une bande dessinée qu'À la recherche du temps perdu de Proust. Et donc, ça laisse une trace de l'histoire beaucoup plus importante que dans l'essai ou le roman. Et voilà pourquoi il y a une vraie demande sur ce sujet.
D'ailleurs, Emmanuel Guibert nous disait la même chose il y a 2 ans sur Radio Prague sur le fait qu'en fait, la BD se reprend facilement, on la relit, on la refeuillette, hein, beaucoup plus aisément, ne serait-ce qu'à cause des images qui remettent en tête très rapidement l'histoire. Est-ce que justement aussi cet engouement des auteurs et du public pour la BD historique, est-ce que ce serait pas aussi parce que justement le XXe siècle a été traumatisant à bien des égards et justement on a besoin de comprendre et autrement?
Bon, c'est vrai que ceux qui oublient l'histoire, comme dit l'adage, sont condamnés à la revivre, mais c'est vrai aussi que les grands chocs qu'on a pu avoir au XXe siècle et ceux qui nous attendent dans le futur et qui sont énormes, les chocs écologiques, les chocs économiques qu'on connaît aujourd'hui qui sont majeurs, qui interpellent vraiment la question de la définition et de la presque de la pertinence de l'humanité, font que la réflexion est beaucoup plus profonde. De la même façon qu'en psychanalyse, on va reconstituer l'histoire de l'individu pour mieux asseoir son propre développement. Cette demande d'histoire est de plus en plus importante aujourd'hui. Et l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on n'est pas seulement dans l'histoire littéraire, dans l'histoire conceptuelle. On est également dans une histoire de l'image. C'est-à-dire que la plupart de ces bandes dessinées historiques sont faites avec des affiches d'époque, des photos, des documentaires. Et tout ça se précipite dans une espèce de synthèse qui font quelque chose de très fort, qui est de l'ordre finalement qui en fait, on a déjà vécu ça. On a vécu ça avec la religion, par exemple. C'est-à-dire que c'est évident que c'est les représentations graphiques de la crucifixion du Christ depuis le haut Moyen-Âge qui font que aujourd'hui c'est quelque chose qui est véritablement ancré dans notre patrimoine culturel plus que toute autre chose. Et on retrouve ça avec la bande dessinée. Bon, ça ne veut pas dire que la bande dessinée, c'est la Bible ou les nouveaux évangiles pour autant. Hein.
C'est vrai que finalement, on pourrait dire que l'histoire se raconte par les images depuis la nuit des temps. On peut penser aux cavernes, on peut penser, à la tapisserie de Bayeux, on peut penser aux vitraux des cathédrales également. Hein. Tout ça, c'est des histoires qui ont été racontées par des images. Hein.
Absolument.
Alors, souvent, les bandes dessinées historiques racontent un événement avec tous les personnages historiques, je sais pas, par exemple, je pense à la mort de Staline, qui est une BD qui est sortie il y a quelques temps, ou alors inscrivent des personnages de fiction inventés, voilà, dans une période historique. Alors peut-être que justement, à travers ces personnages de fiction, aussi les lecteurs peuvent s'y. Il y a un processus d'identification en fait qui se fait plus aisément.
Oui, mais en même temps, c'est John Ford qui disait. Quand la fiction est plus intéressante que l'histoire, choisissez la fiction. Encore une fois, il ne faut pas oublier que l'histoire est, même si c'est un peu vulgaire de dire ça, un produit de consommation. On consomme l'histoire parce qu'on en a besoin. Si on n'en avait pas besoin, on ne la consommerait pas. On le voit bien d'ailleurs dans l'exemple que vous venez de citer de Staline. L'histoire de Staline, on la connaît tous, cette espèce de dictature sanglante, complètement dingue. Mais ce qu'on ne connaissait pas, c'est les dessous, c'est les ressorts un peu ironiques, toutes les faiblesses de ce personnage qui se révèlent au moment de sa mort. Et Fabien Nury a été intéressé par cette approche. C'est-à-dire que ce regard ironique, mais en même temps intelligent de l'histoire, c'est-à-dire qu'il ne se laisse plus attraper par une espèce de symbolique qui est née après la guerre ou avec les libérateurs, toute cette machinerie iconique qui a permis d'établir le communisme, par exemple, elle est déconstruite. Donc la bande dessinée fait ce travail de déconstruction. Quand vous lisez Lucky Luke, ça raconte l'histoire, ça raconte les puits de pétrole, la conquête de l'Ouest, comment on expulse les Indiens, etc. Sauf que ça l'a déconstruit dans le même temps. On va s'appliquer à montrer que quand même, il y a un petit paradoxe à tuer les bisons comme ça par centaines de milliers. On va se moquer des grandes figures du Western. Et c'est ce qui fait que cette BD a eu énormément de succès. Parce que toute l'imagerie qui avait été construite par Hollywood et par le cinéma de western et le roman de western qui est très important, aussi bien en Allemagne, en République tchèque par exemple.
Karl May
est un vecteur très important de la mythologie du western. Toute cette mythologie-là est déconstruite par un Lucky Luke. Il y a un jeu entre le passé et le présent qui est permanent sur l'histoire. Et la bande dessinée, justement, a le double avantage de le faire et dans le propos, et dans l'image. Et c'est pour ça qu'elle a un rôle absolument primordial à jouer, parce qu'aujourd'hui, notre culture est celle de l'image, puisque les mômes passent leur vie devant la télé, devant Internet ou devant les jeux vidéo. Et donc, et la BD est ce support sur lequel on peut s'arrêter sur l'image, la décrypter, alors que dans les médias chauds, comme disait Marshall McLuhan, tout va très vite, on n'a pas le temps, on est totalement passif par rapport à l'image. Dans la bande dessinée, au contraire, on peut s'arrêter et faire ce travail de déconstruction.
Voilà, c'était le critique littéraire belge Didier Passamoni qui était au micro d'Anna Kubishta pour cette rubrique littéraire. Tout de suite, le tchèque du bout de la langue avec Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Suite et fin aujourd'hui de notre petite série consacrée à l'étude du verbe dormir.
Spát.
Et aux différents sens que donnent dans la langue tchèque les préfixes aux substantifs et aux verbes. Dans notre dernière émission, nous nous étions quittés en faisant la grasse matinée. Nous avions alors découvert que les Tchèques pouvaient faire la grasse matinée de différentes manières, ou plus précisément qu'il existait au moins deux mots différents pour désigner le besoin ou l'envie de rester plus longtemps au lit le matin. Tout cela nous avait finalement amené à constater qu'il convenait de faire attention à ne pas rester au lit trop longtemps ou à se rendormir après le réveil quand il ne le faut pas. Et pour cela, se lever tard, il existe en tchèque le verbe
zaspat,
un verbe lui aussi très intéressant car il possède différents sens comme nous allons tout de suite le découvrir.
Zaspala nevěsta, strážnické je dolíně. Zaspala nevěsta, strážnické je dolíně.
Le premier sens du verbe
zaspat,
qui nous intéresse donc, est celui de se lever tard après avoir dormi trop longtemps. Et se lever tard nous met alors logiquement en retard, parfois même tellement en retard que cela nous fait manquer ou rater quelque chose. Ainsi, un Tchèque qui arrive en retard à l'école ou à son travail pourrait dire par exemple
« Zaspal jsem vlak ».
Il ne s'agit pas là de s'être endormi ou d'avoir dormi dans le train, bien au contraire, puisque cela signifie plutôt que j'ai raté le train. Il existe plusieurs façons en Tchèque de faire comprendre que nous avons raté un train, mais l'emploi du verbe
« zaspat »
nous indique que ce train a été raté précisément parce que nous avons dormi trop longtemps et nous sommes levés en retard. Pour éviter ce désagrément, on peut alors prendre ces précautions et demander à quelqu'un de nous réveiller.
Ráno mě vzbuď, abych nezaspal.
Soit, réveille-moi demain matin pour ne pas que je me lève en retard. Mais le verbe
zaspat
possède encore deux autres sens non moins intéressants. Le premier d'entre eux est celui d'inattention. Par exemple à l'école, lors d'une réunion ou d'une répétition de théâtre. Il s'agit alors d'avoir l'esprit ailleurs, en vadrouille, de penser à autre chose que ce qui est en train de se dire ou d'être raconté. Enfin, le troisième sens vaut lui surtout dans l'expression très fréquemment employée de
« zaspat dobu »,
ce qui littéralement signifie quelque chose comme « avoir raté son époque en dormant ». En français, on dirait plutôt « ne pas être à la page » ou « ne pas s'être mis au goût du jour ». En un mot, on est dépassé en retard par rapport à la société actuelle.
Zaspala nevěsta, strážnické je dolíně. Zaspala nevěsta, strážnické je dolíně.
Outre
zaspat,
le verbe
prospat
peut également signifier manquer, rater quelque chose en dormant. Si vous entendez un Tchèque affirmer par exemple
prospal jsem celý film,
cela veut dire qu'il a dormi pendant tout le film et qu'il l'a donc raté. Plus généralement,
prospat
signifie passer son temps à dormir. Ainsi, et il s'agit là d'une autre façon de faire la grasse matinée, on peut passer toute la matinée à dormir.
Prospat celé dopoledne.
Et ce, même jusqu'à en rater le déjeuner.
Prospat oběd.
Attention cependant, si l'on ajoute le pronom réfléchi
se,
le sens s'en trouve modifié.
Prospat se
équivaut alors à dormir un peu, faire un somme, faire une sieste, comme par exemple après le déjeuner, et ce bien entendu seulement si l'on n'a pas raté celui-ci et déjà passé toute la matinée à dormir. On dira alors
prospat se po obědě,
soit faire une sieste après manger. Et puis, achevons notre série avec une dernière expression très imagée, aussi très belle, selon laquelle certaines personnes dorment tellement qu'elles pourraient même rater le jour du jugement dernier.
Prospat soudný den.
Il s'agit là d'une expression dont le sens n'a même pas besoin d'être expliqué.
Že všechno se beroutí v ten soudný den. Kam běžet má.
Voilà, c'est donc avec un extrait de la chanson de Spiritual Quintet intitulée
Soudný den,
le jour du jugement dernier, que s'achève ce Tchèque du bout de la langue et avec lui notre petite série consacrée donc au verbe dormir,
spát,
et à certains des préfixes qui peuvent le précéder et modifier son sens, une règle de la langue tchèque équivaut également pour un grand nombre d'autres verbes ou substantifs. Le jour du jugement dernier est donc arrivé, ne serait-ce que pour cette fois et pour cette émission, mais on se retrouve bien entendu dans 15 jours. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Et maintenant notre page littéraire. Boalem Sansal est un écrivain pour lequel la littérature est un outil pour améliorer le monde. Né en 1949 en Algérie, il est aujourd'hui censuré dans son pays et ses livres ne peuvent paraître qu'à l'étranger. Ses romans sont très appréciés, notamment en Europe de l'Ouest, où l'auteur a déjà reçu plusieurs prix littéraires. Les lecteurs tchèques ont désormais, eux aussi, la possibilité de lire la traduction tchèque de son roman « Le village de l'Allemand » qui lui a valu le prix des libraires allemands. Il en a été question, entre autres, dans un entretien que l'écrivain a accordé à Radio Prague, et dont voici la première partie, un entretien réalisé par Václav Richter.
Rencontre littéraire. Boalem Sansal est un écrivain pour lequel la littérature est un outil nécessaire à l'amélioration du monde. Né en 1949 en Algérie, il est aujourd'hui censuré dans son pays et ses livres ne paraissent qu'à l'étranger. Ses romans sont très appréciés, notamment en Europe de l'Ouest, où l'auteur a déjà reçu plusieurs prix littéraires. Les lecteurs tchèques ont désormais eux aussi la possibilité de lire la traduction tchèque de son roman « Le village de l'Allemand » qui lui a valu le prix des libraires allemands. Il en a été question dans un entretien que l'écrivain a accordé à Radio Prague, et donc voici la première partie. À en croire votre biographie, vous n'avez commencé à écrire qu'en 1997, donc presque quinquagénaire. Pourquoi si tard? Quelle a été l'impulsion décisive qui vous a lancé dans l'écriture?
L'impulsion, c'est l'état de guerre. Voilà, l'Algérie était assombrée dans une guerre civile à partir de 1990-91. Et donc pendant cette décennie, on s'est tout naturellement, évidemment, on s'est interrogé beaucoup, on s'est mobilisé avec des amis pour d'abord essayer de comprendre et puis participer d'une manière ou d'une autre au règlement de la crise. Donc on a formé un petit groupe de 10 et puis on est passé à 20, puis à 30 et puis à 40. Il y avait donc là-dedans des intellectuels, des écrivains parmi eux, dont deux de grands amis. Il y avait des avocats, des gens spécialisés dans les droits de l'homme, il y avait quelques hommes politiques, voilà. Donc on essayait de comprendre ce qui se passait, puis on essayait de militer. On ne savait pas comment, nous ne sommes pas des hommes politiques. Donc chacun avait sa méthode, certains c'était avec les livres, d'autres c'est avec les articles. Ils écrivaient des articles dans les journaux, en Algérie, en France, ailleurs. D'autres faisaient un peu, nos avocats faisaient un peu de diplomatie et contactaient Amnesty International. Voilà, on s'est partagé un peu les rôles comme ça. Mais je crois que dans tous les pays de l'Est, on a connu ça, évidemment.
Vous avez dit, je fais de la littérature, pas la guerre. Mais vous êtes quand même un écrivain qui aborde les problèmes politiques dans votre œuvre. Quelle est donc la place de la politique dans votre œuvre?
Moi, je crois que dans mon œuvre et dans mon travail, il n'y a que de la politique. Je veux dire que sinon, moi, je n'ai pas de raison tellement d'écrire. S'il n'y a pas eu de guerre dans mon pays, je ne crois pas que j'aurais écrit, hein, franchement. Je suis un scientifique, j'ai fait des études d'ingénieur, je suis économiste, je travaillais, j'étais très engagé dans mon travail, dans les entreprises où j'étais. Et j'écrivais, mais dans mon domaine, en tant qu'ingénieur, qui enseignait, qui était chercheur, et en tant que économiste, fonctionnaire, je travaillais sur des questions d'économie spéciales. Ma vie était super pleine. Je ne ressentais pas le besoin, même si j'étais quelqu'un qui adorait lire, qui a toujours été un très grand lecteur. Mais c'est quand cet état-là, cette guerre civile, qui est très mystérieuse et très complexe, qui pose des problèmes énormes, pas seulement des problèmes économiques, mais des problèmes philosophiques, religieux, sociaux, la relation avec le monde, et on avait besoin d'autres instruments pour comprendre. On sentait bien que l'écriture, c'était important, quoi.
L'écriture peut devenir donc un instrument politique. Est-ce que c'est un instrument efficace?
On est obligé de façon passer par l'écrit. Voilà, on est ensemble, on parle, on doit faire des papiers qu'on doit envoyer à l'ONU, à des gouvernements, au gouvernement algérien, aux partis. Et on découvre que Quand c'est bien écrit, quand c'est bien argumenté, quand c'est bien fait, l'impact est fort.
Dans votre premier roman, Le Serment des Barbares, vous donnez une image critique de la situation en Algérie. Que pouvez-vous dire du sujet de ce roman et quelle réaction a-t-il suscité ?
Ce livre a été très mal reçu parce qu'à l'époque, nous étions en pleine guerre. Et donc, les gens ne comprenaient pas ce qui se passe en Algérie. Nous-mêmes, on ne comprenait pas. Et quand on prenait des contacts avec les ambassades étrangères, où on écrivait au Parlement européen, au Parlement français, les ministres, tout ça, ils nous disaient, on ne comprend pas ce qui se passe dans votre pays, donc on ne peut pas, qui il faut aider, on ne sait pas. Et donc on a fait ce travail de décryptage, d'explication. Donc moi, c'est moi qui étais chargé de ce travail. Et il fallait dire les choses vraiment comme elles sont. Un travail d'expert. Donc on dit, si c'est pas bon, on dit c'est pas bon. On dit, voilà ce qui se passe dans votre pays, voilà, il y a une dictature, et voilà, et voilà. Et quand j'en ai tiré de tout ce travail, qui a duré plusieurs années, j'ai tiré un roman, ça a beaucoup, beaucoup déplu, évidemment, mes compatriotes. Quand on dit aux gens, quand on critique leur culture, ou on dénonce les traditions, parce que la violence dans laquelle on vivait, elle vient bien de quelque part. Elle n'est pas tombée du ciel, là. Il y a la dictature, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une culture, il y a une tradition de comme ça. Et alors les gens ils disent, mais non, on n'est pas comme ça. Nous, donc ça, il a été très très mal pris, ce livre.
Vous êtes venu à Prague pour présenter au lecteur tchèque la traduction tchèque de votre roman Le village de l'allemand ou Le journal des frères Schiller. Quelle est la place de ce roman dans l'ensemble de votre œuvre ?
Oui, c'est un livre, effectivement, qui est à part dans mon travail, en apparence seulement. Parce que, bien avant la guerre, 10 années avant que ne commence la guerre civile en Algérie, j'ai fait la connaissance de ce village. Enfin, j'ai fait la connaissance, je suis passé dans ce village où j'ai appris que vivait un Allemand, et puis on m'a raconté son histoire, un ancien SS... qui a eu une vie très aventureuse, après l'Allemagne, il est parti en Égypte, il est venu en Algérie, il a participé à la guerre de libération, enfin voilà. Bon, c'était dans ma tête et ça m'a amené, donc c'était dans les années 80, au début des années 80, ça m'a amené donc à travailler, à lire des choses sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les Allemands, les nazis, qu'est-ce que c'est que le nazisme, et puis la découverte de la Shoah, 20 années de travail sur la Shoah, etc., etc. La guerre civile arrive dans mon pays, et je découvre en cours de route, comme ça, pendant cette guerre-là, pendant que j'en travaillais, là, comme je vous disais tout à l'heure avec les amis, des similitudes étranges entre le nazisme, l'islamisme, tel que dans certains pays, dans certains types d'islamisme, qui sont de véritables fascismes à la base, une idéologie. Et donc j'ai cherché, est-ce que c'est seulement deux fascismes qui se ressemblent, ou est-ce que les fascismes découlent tous d'une... Est-ce qu'ils ont une histoire commune ? Donc j'ai cherché, puis j'ai trouvé évidemment des liens, et historiquement, ils sont connus, même si on en parle très peu, ils sont quand même connus, ils sont très documentés, ils sont très... Donc finalement, on peut le lire comme étant un livre seulement sur la Shoah, mais si on le prend sous l'angle de l'islamisme que je décris dans ce roman et que qui est quand même au cœur du roman, c'est un roman dans la lignée des autres. Donc voilà. L'étrangeté, c'est que il y a une grande part sur la Shoah et c'est un événement immense et que il s'est passé une fois. La question se pose, est-ce qu'il peut se passer encore, quoi ?
Voilà, c'est par cette rencontre littéraire présentée par Václav Richter que s'achève cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée ce week-end par Paul Bauer. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur Internet à l'adresse Internet suivante www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse cr@radio.cz. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Naslishenau.